Content de vous retrouver sur Radium pour le 75e numéro de votre émission littéraire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre. Je vous rappelle que dans le département de l'Yonne, vous nous suivez en FM sur le 90.5, mais vous pouvez également nous recevoir chez vous sur le www.radium.fr. Je suis ce soir particulièrement heureux de vous convier à une promenade historique, géographique, au cœur de la Bourgogne avec notre invité. Nous accueillons ce soir un artiste iconais, connu et reconnu. Il vit et travaille maintenant dans la Yantais et il a longtemps été professeur d'art plastique et de technologie au collège Abel Minard de Tonnerre. Un artisan d'art souvent récompensé, qui a collectionné et accumulé des expériences artistiques et professionnelles variées qui l'ont mené à Paris, à Choisy-le-Roi, en Afrique, et même plus proche de nous, dans l'un des plus beaux villages de France, où, au musée d'art naïf et populaire de Noyers-sur-Serein, il est un des cofondateurs de ce charmant musée, rue de l'Église, avec Jacques Yankel, le fils du peintre expressionniste Kikoïn. Lionel Girard, bonsoir.
Bonsoir Yannick.
Merci à vous. Je sais que vous avez attendu longtemps avant de pouvoir venir mettre en valeur le livre dont il va être largement question ce soir. Lionel Girard a ce beau parcours que j'ai tenté de développer au micro. Vous ajoutez l'écriture, puisque nous vous accueillons en tant que poète-écrivain ce soir, qui nous fait la gentillesse devant le micro de Radion d'évoquer un recueil de nouvelles et de récits qui vous a valu en 2010 au Festilivre de Moneto le prix Festilivre Patrimoine. Ce livre a pour titre « Jocelyn et autres destins de Bourguignon », donc des nouvelles et des récits parus aux éditions Vaillant. Alors l'écriture est une activité intellectuelle, artistique, que vous mêlez bien sûr à vos créations qui sont diverses. Est-ce que je vous ai suffisamment bien présenté,
oui,
Lionel Girard?
Oui, bien sûr. Le côté écriture et image et écrit, cela c'est la même source, c'est l'imaginaire, c'est l'imagination. Mettre des mots sur des images ou mettre des images sur les mots, en fait, dans mon livre, j'ai commencé par écrire et ensuite j'ai mis des images. Mais si vous voulez, dans la démarche d'écriture, il y a des visions, et ces visions, elles se font comme si c'était en noir et blanc et en couleur, comme si c'était un écran que vous aviez devant vous et que vous décriviez. Je trouve souvent que dans l'écrit, il y a des choses qu'on oublie, comme le côté olfactif, par exemple. Souvent, ce n'est pas décrit. La puissance de la couleur, c'est encore assez vivace dans des pages, mais moi, j'en ai rajouté, si vous voulez, dans une nouvelle que j'ai faite à partir de l'exposition d'un peintre, je crois que c'est au musée de Sens, et cette nouvelle, il y avait un concours de nouvelles sur le titre d'un tableau, et je suis entré dans la couleur de ce tableau, et voilà, j'ai fait quelque chose d'assez rougeoyant, carmin, etc. J'ai même une nouvelle qui s'appelle, je crois, la cour écarlate, n'est-ce pas ?
Oui, oui.
Il y a des choses comme ça, qui des flashs de couleurs qui apparaissent comme des flashs de couleurs de peintre, quoi.
Ce qui m'a surpris, c'est dans votre avant-propos, cette volonté de justifier pour quelles raisons vous aviez annexé à chaque nouvelle des dessins de vous-même.
Ça, c'est
comme s'il y avait une... Pardonnez-moi, Lionel Girard. Comme s'il y avait une certaine gêne à la fois de dire, bon,
J'en rajoute.
Pourquoi oui, ce fait, besoin de fait, s'excuser ou de se justifier?
En fait, j'en rajoute. J'en rajoute, comme je dis, c'est une espèce de cheminement mental que j'offre au lecteur, de pouvoir se raccrocher à des images. Vous savez, dans l'éducation, il y a des visuels, il y a des auditifs. Donc, moi, je m'adresse aux visuels en leur disant, eh bien, le parcours de ce livre va se faire avec quelques haltes, quelques repos sur des images. Un peu comme quand on est enfant, et parfois on ne se souvient plus très bien du contenu d'un texte, mais on se souvient des illustrations. Et en fait, ça, c'est ma petite enfance. On n'avait pas beaucoup de livres, hein. On avait le calendrier des postes, et puis la collection de timbres pour les images, la couleur. Et quand on tirait des livres de la bibliothèque Rouge et Or, eh bien, il y avait de splendides aquarelles, de splendides dessins. Et ça, c'était le havre de l'imaginaire coloré qui était offert. Donc moi, elles sont en noir et blanc, mais j'offre, si vous voulez, la pierre qui permet de tracer son chemin parmi mes nouvelles avec ses illustrations.
Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur la couverture de votre recueil de nouvelles et récits. Hein, je rappelle le titre, Jocelyn et autres destins de Bourguignon. Alors vous avez superposé une reproduction de peinture de votre femme, peinture en couleur, forcément, et au premier plan, une photographie en noir et blanc du père Mathieu, garde champêtre d'Appoigny. Confrontation de la couleur du noir et blanc, le féminin, le masculin, le garde champêtre moustachu avec son tambour, on imagine l'attachement au passé, peut-être aussi une pointe de nostalgie, et puis à Lionel Girard qui, un peu à la manière de ce garde champêtre, veut être écouté et a quelque chose à dire.
Oui, oui, très bien, c'est tout à fait ça. Il reste que ce père Mathieu est un personnage emblématique de mon enfance, puisque parfois il nous faisait nous sauter du lit avec son tambour pour lancer son avis à la population. Et c'était aussi l'ami de mes grands-parents, ces fameux grands-parents qu'on retrouve dans la nouvelle.
Ceux qui tiennent Sarah, l'hôtel,
voilà.
L'hôtel de l'étoile.
Voilà,
crois, hein.
C'était mon oncle et ma tante, donc et pendant la guerre, ils se sont retrouvés grand-père, grand-mère, oncle et tante dans cet hôtel de l'étoile. Donc ça, c'est la force de la représentation apovinienne que j'ai voulu. Alors il paraît qu'on dit plus apovinien maintenant. Hein. Il y a un autre nom, mais nous sommes restés d'Appoigny et des Apoviniens de mon temps, et ce personnage reste attaché à l'histoire de Sarah et à l'histoire de cette petite fille juive qui a été et son frère qui ont été sauvés par mon oncle et ma tante. Histoire tout à fait romancée parce que la vérité est plus dure que ce que j'en raconte. Mais voilà, c'est une charnière dans ma vie. Je n'ai eu connaissance de cette vie de Pierre et de
Pierre et
de
Sarah
que vers 12-13 ans. Et dès lors, si vous voulez, j'ai une phobie. Je ne peux absolument pas regarder les films de narration de la guerre où il y a les milices, où il y a les pétainistes et les gendarmes français qui viennent chercher les juifs. Et je, souvent, si on frappe trop fort à ma porte, j'ai l'impression que quelqu'un vient, tout comme on est allé chercher ses enfants, pour soustraire une vie.
Je rappelle que vous êtes à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Nous accueillons ce soir Lionel Girard, plasticien, auteur de Jocelyn et autres destins de Bourguignon, paru aux éditions Vaillant, On se donne rendez-vous dans quelques minutes avec notre invité. Mais d'abord, une pause musicale. C'était en 1985. Voici L'Aziza par Daniel Balavoine. Nous sommes ce soir avec Lionel Girard, artiste, poète, écrivain, devant notre micro pour évoquer Jocelyn et autres destins de Bourguignon aux éditions Vaillant. Lionel Girard, vos nouvelles sont classées dans un ordre chronologique. Hein. Vous avez voulu retenir notre attention sur des destins de Bourguignon. Alors, on est dans une période extrêmement brillant, puisque vous parlez, en tant qu'artiste aussi, de l'art roman bourguignon qui s'est exporté, la première nouvelle, nous montrant en fait des artistes bourguignons qui vont travailler sur des cathédrales, des édifices religieux très très loin de leur Bourgogne natale.
Oui.
Et vous aussi, quelque part, vous avez quitté votre Bourgogne pour exporter vos talents ?
Tout à fait, tout à fait. Mais le premier si vous voulez, ce Jocelyn dit le Taillandru est un compagnon, enfin disons un démarrage du compagnonnage. Il y a quelques tableaux de référence, entre autres les cabanes sous la toile tendue au pied de la cathédrale d'Albi. Et ça, je le dois à mon grand-père qui était meilleur ouvrier de France et qui a fait le tour de son tour de France dans une spécialité qui était la fabrication des outils chirurgicaux. Voilà, donc des gens qui travaillaient le métal. Et ça fait aussi partie de mon histoire familiale et c'est un peu un hommage que je lui rends. Disons que indirectement, l'outil qui sert à tailler la pierre est un outil de métal et qu'il faut travailler, qu'il faut rendre assez résistant face à la pierre, bien que là nous soyons dans du calcaire.
Et enfin, les termes techniques sont très nombreux dans cette première nouvelle, hein, et les noms des différents métiers, des différents artisans qui œuvraient sur ces monuments, qui nous sont restés d'ailleurs, hein, qu'ils nous ont légués pour notre plus grand plaisir, et qui constituent un patrimoine qu'il faut vraiment protéger.
Oui, dans la source même de ce qui a pu éclairer ce récit, j'ai un ami tailleur de pierre qui s'appelle Yvan Baudouin, qui habite Dannemoine, donc c'est un peu lui qui m'a servi de modèle. Ensuite, la cathédrale d'Albi, il se trouve que Sarah est arrivée comme une espèce d'implosion à mes yeux en rapport avec l'histoire de l'art de la Bourgogne et de Claus Luther.
Là, vous ne cachez pas votre admiration pour Claus Luther. Vous parlez de la chartreuse de Champmolle,
voilà,
près de Dijon, mais vous parlez aussi du vieil hôpital Marguerite de Bourgogne à Tonnerre et puis Notre-Dame de Semur en Auxois.
Oui, oui. Si vous voulez, nous sommes à la charnière dans ce récit, à la charnière de la fin du Moyen-Âge et du début
des temps modernes.
Des temps modernes, du début de la Renaissance. Et j'aime à dire que cette période est la période, et c'est un peu le sens de cette nouvelle, est la période où l'homme se détache de Dieu. L'homme donne sa formule humaine complète, c'est-à-dire qu'il n'est plus en crainte du péché, il n'est plus en crainte
de la faute,
etc. Et il commence à prendre son chemin vers la lumière, hein, vers les temps du 18e. Et ce qui fait dire aussi à notre évêque d'Albi petit clin d'œil comme ça, qu'il n'est pas encore venu le temps où on donnera le nom d'une femme à une rue, etc. Je me suis un petit peu amusé à enfoncer le clou pour notifier cette espèce de libération par rapport à l'emprise de l'Église. Église qui est toujours commanditaire d'œuvres qui fait vivre les artistes, etc. Disons que si l'artiste a existé, c'est parce que les pouvoirs religieux du Moyen-Âge, surtout pour cette splendeur de cathédrales, de sculptures et de fresques, c'était la religion qui était commanditaire en premier.
Et pourtant, dans cette nouvelle, on sent bien que notre artiste va perdre Martha, il y a un accident, Martha tombe d'un échafaudage. on voit bien quand même que les femmes, on ne peut pas leur enlever l'affection, l'amour et peut-être aussi l'inspiration qu'elles peuvent apporter aux hommes.
Tout à fait.
Au mâle, si je peux me permettre cette formule.
Tout à fait. C'est l'histoire d'une muse.
Hein. C'est ça.
C'est l'histoire d'une muse. C'est l'histoire d'une muse dans un contexte tout à fait particulier de la fin du gothique flamboyant et cette souffrance parce que et aussi la partie qui va faire éclore le grand art de notre ami Josselin.
J'aimerais qu'on parle des figures religieuses. Je me suis demandé, Lionel Gérard, si la religion avait un rôle important pour vous en tant que foi, ou est-ce qu'elle était un point d'appui à la création artistique, car je sais que vous avez produit des œuvres pour des édifices religieux, je crois des vitraux notamment.
C'était un projet. Le vitrail,
qui n'a pas abouti.
Ce qui a abouti, c'est un chemin de croix qui est maintenant...
Avec des éléments simples, recyclés,
voilà,
en fait.
Voilà,
c'est ça.
Voilà,
mais quel est votre rapport au religieux, Lionel Gérard ?
Le rapport au religieux, c'est que, disons que la souffrance est universelle et que le Christ est porteur de cette image de souffrance et que une vie sur terre, on ne peut pas, quels que soient ses moyens financiers, quels que soient, on ne déroge pas à une souffrance ou morale ou physique. Donc, la religion en cela, c'est ce qui me conduit à avoir cette sublimation de la création à travers certains vous diront l'angoisse, certains vous diront, moi je dis la souffrance.
D'accord. Et vous parlez, vous mettez en valeur dans cette première nouvelle, vous mettez en valeur des figures religieuses féminines, notamment Judith qui a libéré son peuple de l'oppresseur assyrien, et puis vous parlez aussi de toujours de Judith, qui a décapité Holoferne. Il y a des images de femmes aussi, des femmes très violentes, des femmes qui sont presque des forces viriles.
Oui, mais ça, c'est encore la suite de la photo sur le bord du piano. Je ne pouvais pas ignorer la culture juive, je ne pouvais pas ignorer
Les bouddhistes aussi, hein, vous en parlez.
Oui, mais ça, c'est, oui.
C'est un clin d'œil, simplement, à un lieu de foi bouddhiste.
Non, parce que vous prenez la suite des figures féminines de Marek Alter, par exemple, vous apercevez que ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes qui ont construit Israël. Donc, difficile de se départir de cela à partir du moment où on s'est intéressé à l'histoire juive et à l'histoire de ceux que j'appelle mes cousins.
Lionel Gérard est notre invité ce soir dans Wagon Livre pour évoquer son recueil de nouvelles et de récits intitulé « Josselin et autres destins de Bourguignon » disponible chez vous libraires aux éditions Vaillant. En lien avec notre propos, voici, si je puis dire, une chanson de circonstance interprétée par Jean Ferrat, le célèbre « Nuit et brouillard », hommage aux victimes déportées et disparues dans les camps d'extermination, un titre sorti en 1963 et que l'on réécoute ce soir sur Radion.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Plus proche de vous, partout. Radion, au cœur de la Bourgogne.
Toujours à l'écoute de votre radio locale, à bord de Wagon Livre ce soir, avec Lionel Girard, qui est notre invité pour Jocelyn et autres destins de Bourguignon, un recueil de nouvelles et récits disponible aux éditions Vaillant. Lionel Girard, au début de notre entretien, vous avez dit combien la guerre et les récits de guerre, de l'occupation, de la clandestinité des juifs, des enfants juifs cachés par ce qu'on appellerait des justes, hein, des, certaines familles françaises qui les ont protégés d'un système, du système concentrationnaire. Je voudrais revenir sur ce thème de l'enfance au bonheur confisqué dans cette nouvelle où il est question de ces deux enfants juifs qui sont cachés à la campagne, à l'étoile, à l'hôtel de l'étoile, à Chichery, c'est au sud de Migennes. Donc là, vous appuyez sur des éléments authentiques, nous sommes bien d'accord, plus ou moins authentiques, romancés, mais en tout cas dont le fond...
L'hôtel de l'étoile, certes, Chichery un peu moins, mais ceux qui connaissent notre famille savent quel est le village. Vous savez, vous me disiez tout à l'heure, c'est un fil d'Ariane, hein. C'est un fil d'Ariane, les enfants juifs, l'histoire de Jocelyn, Cœur de bois, etc. Tout ça, on arrive effectivement à des histoires de certains éléments vécus. Le Christ en question dans Cœur de bois est au sein de l'église d'Apoigny.
Alors on va y revenir sur cette figure du Christ, oui. Cette statue du Christ qu'on ressort d'une crypte d'église et qui contient
là
un
encore,
terrible
on est
secret.
À la fin de la guerre, oui.
Mais dans la nouvelle qui a pour titre La photo sur le bord du piano,
oui.
Vous mettez en scène un officier allemand qui m'a rappelé celui que l'on peut rencontrer dans Le silence de la mer chez Vercors, c'est-à-dire un officier allemand qui refuse d'être un exterminateur qui reste un humain, lui-même père d'une petite fille restée en Allemagne. Mmh. Vous mettez en valeur finalement un guerrier, mais un guerrier qui a du cœur et qui reste humain.
Si j'avais vécu, par exemple, la guerre d'Algérie, puisque je suis né en 44, j'ai failli la faire, mais j'étais à ce moment-là dans mes études. Le voisin qui a 2 ou 3 ans de plus que moi revenait de ses épopées de guerre et racontait les exactions, etc. Et je souffrais, là encore, je souffrais, même si ce peuple algérien avait été déclaré comme étant ennemi de la France, pour moi, c'était avant tout des hommes. Et donc, vous allez trouver à chaque fois des nuances d'humanité. Et si j'appartiens à des mouvements comme la LDH, c'est pas pour rien, c'est parce que ça fait partie aussi de...
La Ligue des droits de l'homme.
La Ligue des droits de l'homme, ça fait aussi partie de mon éthique, de la façon dont je conçois les rapports humains. Donc ce personnage d'officier allemand, il ne pouvait pas en être autrement dans mon histoire, même si vous voulez, parce que dans la condamnation des enfants juifs à ce que leurs parents disparaissent dans la solution finale de Dachau ou de Auschwitz, etc. C'est de la faute de certains Français. Les gendarmes qui sont venus les chercher étaient des gendarmes français. Voilà.
Mais est-ce qu'un gendarme pouvait désobéir à cette
époque ? Oui, il y a un gendarme qui a désobéi, puisque c'est celui qui a permis aux 2 enfants juifs à ce que ma grand-mère aille les rechercher au commissariat, parce qu'il a déclaré les parents sans enfants. Donc il y a aussi autant d'humanité dans le soldat allemand que dans le gendarme.
Alors, mais puisque nous parlons justement d'humanité, je souhaiterais qu'on s'arrête sur une nouvelle qui a pour titre « Cœur de bois ». Mm-hmm. Peut-être mieux d'avoir un cœur de bois qu'un cœur de pierre. Mais cette nouvelle s'intitule « Cœur de bois ». Là encore, Lionel Girard, nous sommes sous l'occupation. Enfin, on est un peu moins de 10 ans après l'occupation. En 53, un jeune garçon est chargé de nettoyer donc la statue en bois d'un grand Christ, et en briquant, en faisant reluire le bois de cette statue qui a une histoire elle aussi, eh bien, il fait une étrange, une curieuse découverte sur ses racines, puisqu'il va découvrir, bon, il le savait que son père avait été fusillé et était un héros de la résistance. Mais ce pauvre garçonnet va faire une découverte absolument tragique. Enfin, c'est traumatisant. On est vraiment de l'ordre du tragique. Là, on est presque dans la force de la tragédie grecque. Pourquoi avez-vous, raconté une histoire d'un garçon bouleversé par ce qu'il découvre ?
Parce que, si vous voulez, lorsque l'on est enfant, on ne comprend pas toujours très bien le jeu des adultes dans les réunions. Pourquoi mon père danse toujours avec la même femme au bal du village et qu'il ne danse pas avec ma mère, etc., etc. Donc ça, c'est une souffrance intérieure que j'ai extirpée.
Et justement, il est beaucoup question de l'enfance. Les enfants sont très présents. Et vous-même, vous l'êtes peut-être toujours, concepteur de jouets. Vous en avez créé un certain nombre. Je ne sais plus quel écrivain disait que l'enfance était la patrie des écrivains.
Oui, je pense que c'est très juste, parce que les plus fortes émotions, c'est à cette période-là que vous les avez. Et elles sont donc neuves, et lorsque adulte vous en avez, vous ne pouvez faire autrement que de vous référer à celles de vos de votre enfance parce qu'elles sont les mêmes. Elles ont racine et en tant qu'adultes, elles prennent leur épanouissement, même si ce sont des souffrances, avec une comment dirais-je, parce qu'elles ont été générées de cette, dans cette petite enfance. Donc c'est pour ça que j'ai réécrit ces choses-là.
Voici, cher Lionel, une chanson que vous avez désiré réentendre, plus légère et à la tonalité moins grave que celles qui ont précédemment ponctué notre discussion. Voici Léo Ferré et Joli Môme. Nous nous retrouvons avec notre invité, Lionel Girard, dans quelques minutes.
T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, fausse l'affaire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie, et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue et ma boule, joli môme.
Pour contacter Radion, 03 86 46 50 50. Radion.
Lionel Girard, on revient sur la famille et sur l'enfance. Il y a une nouvelle qui s'intitule « Ses yeux si bleus, si pervenches ». Dans cette nouvelle, vous racontez l'histoire d'une mère qui attend le retour improbable de son fils qui a disparu, enfin, qu'elle pense avoir complètement disparu pendant la guerre, alors que son fils était engagé finalement dans la marine. Mais par exemple, si on prend une autre de votre nouvelle, on voit une famille vietnamienne qui arrive en gare de Mâcon en 1954 et qui déclenche un petit incident en se mettant à cuisiner avec un wok, c'est ça, un wok. Et l'odeur étrange qui se dégage de la cuisson avec ce wok va mobiliser les forces policières pensant qu'effectivement cette odeur suspecte cache peut-être une attaque terroriste. Et puis, ce fils qui a disparu, je reviens à cette nouvelle de cette mère qui attend ce fils, là encore, la guerre omniprésente, cette mère qui attend ce fils et qui imagine qu'il est peut-être sur une île, seul, se livrant à sa passion, c'est-à-dire la peinture. Alors je me disais, est-ce que Lionel Girard ne rêve pas lui-même de se retrouver seul, peut-être avec, un peu avec sa femme Catherine, sur une île déserte et pouvoir complètement s'adonner à ses créations artistiques?
Oh, ben ça, disons que lorsqu'on est dans son atelier et lorsqu'on est devant la page blanche, c'est ça l'île. On est seul. On est seul avec ses images mentales à devoir soit traduire par la couleur, soit traduire par des mots. Vous faites référence à ce fils que cette dame voit peintre dans les îles avec des extraits des cris. C'est la véritable photo qui est au bas du... Voilà, sur la tombe.
Effectivement. Hein, alors le dessin qui illustre cette nouvelle représente la tombe de ce jeune homme, c'est page 101, avec en plus, on voit, vous y avez mis des éléments exotiques inspirés des peintures de Gauguin.
Gauguin étant une référence... des nabis, c'est-à-dire là encore un mot hébreu signifiant prophète, qui a toujours marqué ma référence à la peinture moderne. Je peins la luxuriance des saisons, des plantes et des fleurs, la beauté des femmes, la candeur des enfants, etc. Ça, ce sont des morceaux qui sont tiré directement du cahier de Paul Gauguin.
Et là, on est bien dans le contraste entre une Bourgogne rustique, l'exotisme, le paradis de l'île lointaine, sur lequel cette mère, privée de son fils, dont elle n'a pas de nouvelles, mais elle l'imagine heureux, peut-être tout seul sur cette île, mais se livrant à sa peinture. Et alors là encore, Lionel Girard, vous êtes d'une cruauté terrible pour le lecteur, c'est que ce jeune homme, au moment où il revient, il croise un corbillard. Et je vends la mèche, mais ce corbillard, c'est le convoi funèbre de sa mère. Et il ne le sait pas, il voit passer ce convoi funèbre, mais il ne sait pas que c'est sa mère qui est morte, peut-être de chagrin aussi.
Mon cher Yannick, si vous saviez combien de temps a mis cette histoire à mûrir, j'ai bientôt 70 ans, elle a dû mettre 50 ans. Pour arriver à cette fin-là, pour arriver à cette maturité, à ce que ça coule tout seul, etc. Parce que ce sont des morceaux de moi, de ma famille, etc. Ça, il y a des choses qui ont existé.
Mais l'amour, fils, mère, mère-fils, est très présent aussi. Je pense, par exemple, le marquis de Chanzy. Là, c'est encore un drame. C'est bon. Il y a une histoire derrière, secondaire, mais qui est passionnante finalement. Derrière un homme dont on ne connaît pas le passé se cache un... Je ne dis pas, les auditeurs iront lire, mais au cours d'une chasse, dans cette nouvelle, un père tue son fils qu'il a pris pour un sanglier. Il y a du sang. On ne peut pas dire que vos nouvelles soient, pardonnez-moi, c'est pas gentillette, naïve, innocente et pure. Non, il y a une violence. Vous parliez des couleurs. C'est vrai qu'il y a une vivacité. La vie est là. Dans ce qu'elle a parfois de plus beau, là, hein, on peut sauver des enfants juifs d'une rafle. Mais dans ce qu'elle a de plus terrible, la perte d'un fils, la mort d'une mère. Il est beaucoup question des mutilations des corps. Il y a beaucoup de corps abîmés. Hein, ce gamin qui ramasse une grenade sur une plage et qui explose et il se retrouve non plus avec une main, mais un moignon sur lequel on va installer une pince. Vous montrez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Oui. Il y a toujours, peut-être chez moi, une recherche. J'aurais aimé... être Kafka, par exemple. J'aurais aimé pouvoir écrire des choses frôlant l'absurde, etc., parce que je trouve qu'il y a parfois des attitudes tout à fait dérisoires, ne serait-ce que cette formule « il faut 9 mois pour faire un enfant et 1 minute ou 1 seconde pour le faire disparaître », etc. Et je suis parfois étonné de voir l'absurdité des choses du style « on fait venir des associations, font venir des enfants » de tous les pays sous-développés ou en voie de développement pour les opérer d'une malformation du cœur, et pendant ce temps-là on organise des génocides, etc. Donc on ne peut pas dans notre vie tout voir s'il vous faut une couleur en rose, c'est pas possible. Donc cette absurdité, j'essaye aussi de la communiquer dans mes écrits, et le côté tout à fait dérisoire, nouvelle que j'ai lue au Théâtre de Sens, qui est celle que vous avez citée du jeune homme récupère une grenade. Et
cette nouvelle s'intitule « Passer la bague au doigt ».
Voilà, « Passer la bague au doigt », donc c'est tout à fait quelque chose qui plonge dans la dérision.
Oui, et en plus, vous jouez avec les mots, et effectivement, vous montrez bien que l'expression « passer la bague au doigt » devient totalement ridicule pour ce garçon qui n'a plus de doigts, mais qui n'a qu'une pince. Et effectivement, il y a cette dénonciation.
Mais si vous voulez, pourquoi ces histoires de guerre, etc. Parce que ça fait partie de notre famille, d'un côté, de l'autre, du côté maternel, une tante qui a été mariée un jour à un soldat, un frère de ma grand-mère, qui est de 14-18, qui est mort le lendemain de son mariage, quand il est retourné au front, etc. Donc tout ça, ça fait partie de ce que l'on vous raconte lorsque vous êtes jeune, et qui vous marque.
Et que vous compilez dans ces destins de bourguignons que vous...
Voilà, tout à fait.
Il y a une très très belle nouvelle qui s'intitule « Les yeux de porcelaine ». Là aussi, l'enfance, une petite fille qui accompagne sa mère, qui va voir une vieille tante aveugle, presque grabataire, dans un hospice.
Ça pourrait être celui de Tanley, par exemple.
Et ce qui est très émouvant, et là je pense au concepteur de jouets, c'est la transmission du jouet d'une génération à une autre, avec les précautions, attention. Alors, il y a ce jeu de mots de cette vieille tante aveugle, la petite fille découvrant le mécanisme du fonctionnement des yeux de la poupée appartenant à sa vieille tante, et lui dit « Fais attention, il ne me reste plus que ces yeux-là ». Il y a beaucoup d'émotion, il y a beaucoup de délicatesse aussi dans cette transmission, peut-être transmission de son histoire, de son enfance, et je dirais que Lionel Girard, en écrivant ses textes, il a transmis aussi une part de son enfance qu'il a mise sur le papier.
Pas une part de mon enfance, une part de ce que me racontaient mes grands-parents, l'Exode par exemple, avec sur les routes cette, vous voyez, la mère tirant l'enfant, tirant elle-même la poupée. Et ça, ce sont des images qui, dans les familles, existent depuis 40, 42. Et donc cette poupée, par exemple, ma femme a fait une exposition, Catherine Louba-Girard a fait une exposition à Avallon qui s'appelait Généalogie fictive. Et elle y raconte, parce qu'elle avait fait la liaison entre les images de son enfance et les poupées qu'elle possédait. Elle y raconte tout ce qu'elle pouvait faire subir à cette poupée, exactement. Donc il y a une référence aussi à son histoire là-dedans, certainement que cette petite fille est Catherine quand elle était petite.
Donc, Cette nouvelle s'intitule « Les yeux de porcelaine hein. ». Alors, les destins de Bourguignon ont commencé, effectivement, vous dites, charnière fin 15e siècle, début 16e, avec Jocelyn, hein, Jocelyn et autres destins de Bourguignon. Et puis, vous montrez aussi des Bourguignons qui s'exilent, des Bourguignons qui changent de continent. C'est le cas de Armand Haut, ingénieur agronome, qui part dans une petite république de Centrafrique que vous avez complètement inventée, mais dont les violences nous rappellent celles qu'un certain nombre de pays africains connaissent actuellement dans des déchirements tribaux dramatiques, dont on ne parle d'ailleurs finalement pas tant que cela, que l'on ne met pas tellement sur le devant de l'actualité. Et là aussi, c'est violent, il y a la tomate, le rouge encore, il part avec l'espoir de devenir un petit peu l'agronome qui va développer différentes espèces de tomates en Afrique. Et finalement, son destin va être tout autre.
Tout à fait. En Afrique, j'y suis allé.
En tant que coopérant.
Pour travailler sur l'alphabétisation, sur un projet d'ailleurs tout à fait génial, dans un pays où 10% de la population est alphabétisée, comment essayer d'alphabétiser le plus grand nombre? Eh bien, c'est de remplacer le maître par le poste de télévision. Bon, c'est trop facile de dire cela, parce qu'on va bientôt vous dire aussi que certains ministres de l'Éducation nationale voulaient remplacer le maître par l'ordinateur. Mais nous, ce que nous voyons dans ce projet, c'était d'aider les jeunes maîtres qui avaient seulement le certificat d'études à transmettre un savoir équilibré, dicté, etc., à travers la télévision aux autres élèves. Voilà. Donc, le maître n'avait plus le bac, le maître n'avait plus diplôme d'enseignant, il avait seulement son certificat d'études et il transmettait d'une façon imagée ce savoir à 100 élèves dans une case.
L'heure tourne très vite, mon cher Lionel. J'aimerais qu'on s'arrête sur une nouvelle. Alors, j'ai un gros coup de cœur aussi pour cette nouvelle qui s'intitule « L'orage ».
Oui.
Et je ne vais pas trop en dire parce que j'aimerais vraiment laisser aux auditrices et auditeurs qui, je l'espère, iront se procurer votre recueil de textes dont je rappelle le titre « Jocelyn et autres destins de Bourguignon, nouvelles et récits de notre invité, Lionel Girard, aux éditions Vaillant ». C'est une excellente nouvelle qui est construite sur un doute lexical, enfin sur un quiproquo lexical et sémantique, parce qu'on relève tout un champ lexical de la libération de prisonniers, on va dire. Il y a commission de remise en liberté, il est question d'une sortie prévue à 8h du matin, il est question de gardien, d'un lieu de détention, on en relâche 6 d'un coup, on parle de lâcher en groupe, d'un mirador, et justement, on pense qu'on va libérer des prisonniers auxquels on va mettre peut-être un bracelet électronique, mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, à pas de loup comme ça, l'auteur nous fait comprendre qu'il y a un suspense. Ça, c'est une magnifique nouvelle, Yannick.
Merci Yannick. Le Morvan vaut bien ça.
C'est ça. Lionel Girard, dernière petite question avant de nous séparer. Si je vous dis qu'actuellement dans notre pays, l'inculture gagne du terrain, vous approuvez ou vous êtes plutôt optimiste ?
Je dirais que ce n'est pas la même culture. Qu'il y a effectivement... moi, je suis complètement inculte. Lorsque vous m'avez demandé de trouver des illustrations sonores, j'ai eu un mal de chien à trouver... le nom d'un auteur, chanteur, etc., compositeur de notre instant, alors que mes enfants en connaissent une multitude. Voilà. Donc, à chacun sa culture de l'époque. Ce qu'il y a, c'est que, puisque j'ai été enseignant, il faut que le socle des belles choses, qu'elles soient imagées, qu'elles soient écrites, qu'elles soient auditives, soient données. Et après, on en fait ce qu'on veut. Voilà. C'est-à-dire que la culture, c'est la liberté pour chacun de se construire, de construire son savoir. Donc moi, je ne suis pas pour une forme tout à fait dictatoriale du savoir. Ce que je veux, c'est que... Et c'est notre éducation nationale qui nous a permis ça, à nous, de pouvoir butiner un petit peu partout et de faire ce que nous sommes, sans être forcément des très, très bons en musique rock ou dans...
ou en jazz électro.
Voilà, exactement.
Alors je vais reprendre un verbe que vous avez utilisé, butiner. Je ne peux qu'encourager toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés à aller butiner aussi chez les libraires, hein. Faites vivre les libraires de votre région, ça c'est très très important, et je vois que Lionel Girard acquiesce. Procurez-vous Jocelyn et autres destins de Bourguignon, dont il a été question ce soir, recueil de nouvelles et récits de Lionel Girard, qui a été notre invité, que je remercie d'avoir été patient, et je suis heureux de pouvoir vous le compter parmi les nombreux invités de Wagon Livre.
Merci Yannick Petit pour ce jovial accueil. Merci aussi pour avoir si bien discerné certaines finesses à l'intérieur de ce livre. Vous êtes un découvreur et nous n'avons peut-être pas la même culture, mais disons que par moments ça s'approche.
Bonsoir Lionel et merci à vous.
Bonsoir.
Quelques informations culturelles et littéraires dans les semaines à venir dans Lyon. Tout d'abord, ce vendredi 15 juin à partir de 18h30, c'est à la maison Jules Roy à Vézelay, rencontre avec Djalila Dechache, auteure actuellement en résidence à la maison Jules Roy. Elle est d'origine algérienne, française, cosmopolite, et Djalila Dechache reviendra sur les échanges entre Jules Roy et Jean Amrouche. C'est donc ce vendredi à partir de 18h30. Et d'ailleurs, au cours de cette soirée, l'écrivain Gérard Calmette, qui vient de faire paraître aux éditions de l'Armançon un livre intitulé « Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa », Gérard Calmette interviendra et évoquera notamment l'Algérie de ses 20 ans, cette Algérie d'avant la guerre d'indépendance que Gérard Calmette a bien connue, et il évoquera donc la tolérance et l'amitié entre les deux peuples, algériens et français, deux peuples faits pour s'entendre. En ce qui concerne l'ouvrage de Gérard Calmette, je voudrais simplement dire que c'est un livre très original dont on aura l'occasion de reparler plus longuement dans Wagon Livre, parce que Gérard Calmette a découvert au hasard de ses lectures l'existence et l'œuvre du peintre Émile Aubry, né à Sétif et mort à Voutenay-sur-Cure. Et donc Gérard Calmette raconte le parcours de ce peintre et il revient aussi sur l'Algérie. Voilà, Gérard Calmette donc et Djalila Dechache qu'on peut rencontrer le vendredi 15 juin prochain à partir de 18h30. C'est à la maison Jules Roy de Vézelay. Si vous êtes féru d'histoire, eh bien ne manquez pas le 16 juin prochain, ce week-end, c'est à Saulieu en Côte d'Or, de 19h à 22h, la nuit éduenne. Alors c'est une nuit entièrement dédiée à la culture des Éduens, des Gaulois, et il y aura aussi des Romains. Alors il y aura des devinettes gauloises, possibilité aussi de manger gaulois, des mets romains aromatisés aux herbes. Il y aura également des dattes au miel et aux noix. Il y aura la présentation de vaisselle romaine. Des ingénieurs romains, d'ailleurs, vont en tenue, vous feront découvrir les instruments de mesure et leur fonctionnement. C'est la nuit éduenne, samedi 16 juin prochain, de 19h à 22h. C'est organisé par le musée Pompon à Saulieu, en partenariat avec Musée Bibracte, le service patrimoine d'Autun et la Légion 8 Augusta. Voilà. Le 16 juin, cette fois-ci, mais c'est en matinée et c'est à Avallon, c'est une séance de dédicace qui a lieu à la librairie Voileau à 10h30. Laure Lasvergnas dédicace son livre « Histoire de l'agence d'Avallon, des enfants assistés de la Seine ». C'est aux éditions Publibook. Et Laure Lasvergnas, donc, sera présente à la librairie Voileau à Avallon de 10h30 à midi pour dédicacer cette histoire de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine. Je voudrais aussi préciser, puisqu'on reste dans les séances de dédicace, mais c'est un petit peu plus tard, c'est le samedi 23 juin prochain. C'est à la librairie L'Or des Étoiles, Jean-François Lecomte. Jean-François Lecomte a fait paraître un ouvrage sur Vézelay, et notamment sur la basilique Sainte-Marie-Madeleine, livre intitulé « Vézelay, une église guerrière ». Eh bien, l'auteur dédicacera ce livre à la librairie de Vézelay, rue Saint-Étienne, L'Or des Étoiles, de 16h30 à 18h30, c'est le samedi 23 juin prochain. Et puis j'anticipe aussi la conférence que donnera le vendredi 29 juin à 18h30 à la Maison Jules Roy, conférence que donnera donc Christian Limousin, consacré à l'écrivain Georges Bataille, Georges Bataille à Vézelay. Alors effectivement, il y a un collectif Lire Bataille 2012 dont on reparlera plus longuement dans Wagon Livre d'ici une quinzaine de jours, puisque nous aurons devant notre micro Christian Limousin, ancien professeur de lettres qui fait partie de ce collectif Lire Bataille 2012, et nous aurons avec lui dans l'émission du 27 juin prochain l'occasion d'évoquer la vie et l'œuvre de Georges Bataille, l'écrivain méconnu, scandaleux, qui est mort en 1962 et qui repose d'ailleurs au cimetière de Vézelay. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, mercredi 20 juin, pour un premier roman. Un premier roman écrit par Sarah Elisabeth. Il y sera question de viol et d'inceste, un sujet lourd et pesant, une émission et un livre à découvrir mercredi prochain à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.